Bonjour, bonjour mes chers amis dans le Dhamma. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et un bon matin. Et naturellement, j'espère que vous avez continué à pratiquer un peu, pratiquer santi, la pleine conscience, être attentif, être vraiment dans le présent. Peut-être quand vous vous êtes couché, le moment où vous avez fermé les yeux, vous étiez attentif? Peut-être. Mm-hmm. Peut-être pas. Ou que vous avez cultivé un peu metta, la bonté du cœur, l'amour bienveillant, en souhaitant le bonheur, le bien-être pour vous-même. Ou bien ce matin, quand vous êtes venu, peut-être dans le tram, dans le bus, souhaitez le bien-être à toutes les personnes dans le bus, ou le chauffeur qui doit travailler aujourd'hui, un dimanche. Comme j'ai expliqué hier, il y a plein d'opportunités pour pratiquer. Il ne faut pas venir au centre Vimalakirti pour être capable de pratiquer, mais la vie offre plein d'opportunités pour pratiquer. C'est une attitude, hein, comment nous voulons passer notre vie, comment nous voulons passer la journée. Et si c'est une priorité de cultiver notre cœur, notre mental, de cultiver les qualités bonnes et bénéfiques, donc nous pouvons transformer chaque situation, chaque activité en pratique de méditation. Hier, j'ai parlé de santi, la pleine conscience ou l'attention, comme un aspect du Dhamma qui peut nous protéger dans notre vie. Et avec santi, la protection et nous peut protéger des impuretés du cœur, du mental. Les impuretés, c'est-à-dire l'aversion, le désir, la jalousie, avoir des ressentiments, être piégé par un désir très fort, etc. Donc être attentif nous peut protéger. Si nous sommes très très attentifs, par exemple, dans la méditation, être attentif à l'expérience de la respiration ou être attentif à une douleur. À ce moment-là, il est impossible pour les puretés de monter, de se manifester. Si l'attention santi est vraiment très puissante, très forte, S'il n'est pas tellement puissant ou fort, au moins nous serons conscients que la colère ou l'aversion, la jalousie, un désir est apparu dans notre mental. Donc le feu qui brûle dans notre mental, qu'il y a la colère, où l'aversion peut être réduite, où le feu ne devient assez, ne devient pas très grand. Et avec l'attention, ça va. L'aversion, par exemple, va disparaître plus vite. Elle ne va pas devenir très très forte. Et j'ai aussi parlé de métta, de métta-méditation, la cultivation de l'amour bienveillant, cultiver la bonté du cœur. Et la méditation métta nous protège surtout de toute forme de dosa, d'aversion, colère, la haine, parce que métta, c'est l'opposite de dosa. Quand il y a métta dans le cœur, dans le mental, à ce moment-là, dosa ne peut pas apparaître. C'est impossible que les deux états mentaux soient présents simultanément. Métta nous peut protéger de dosa. Aussi, elle peut prévenir que dosa apparaît. Et si dosa a apparu dans le mental, dans le cœur, avec la pratique de métta, on peut affaiblir ou réduire la force de dosa. Comme j'ai dit hier, aujourd'hui, je vais parler de la pratique du pardon ce matin et puis l'après-midi de la vertu, aussi comme force protectrice dans notre vie. Et je vais commencer de parler sur la pratique du pardon par une citation d'une femme qui s'appelle Eva Kaur. Elle a survécu le camp de concentration à Auschwitz dans la Seconde Guerre mondiale. Eva Kaur a dit: de tout mon être, je crois que chaque personne humaine a le droit de vivre sans la douleur du passé. La plupart des gens ont un grand problème avec le pardon parce que la société demande vengeance. Nous devons témoigner du respect aux victimes et honorer leurs souvenirs, mais je me demande toujours si mes proches, qui sont morts, voudrais vraiment que je vive jusqu'à la fin de ma vie avec la douleur et la colère. La pratique du pardon, je le fais pour moi-même. Le pardon n'est rien d'autre qu'un acte d'auto-guérison. Et cela me donne à moi-même une grande force. Moi, j'appelle ça un remède miracle. Ça ne coûte rien, ça marche et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est vrai, beaucoup de personnes ont un grand problème avec le pardon. Parce que, comme Eva Kaur a dit, dans notre société, monde vengeance, surtout quand les gens nous ont causé la souffrance. Et comme elle a aussi dit, la pratique du pardon est une forme d'auto-guérison. C'est à guérir, c'est à guérir notre cœur qui est plein de ressentiments ou des émotions négatives. La pratique du pardon, c'est une façon de laisser aller le passé et à venir à terme avec le passé. Et avec la pratique du pardon, nous pouvons commencer à nouveau. C'est comme un renouvellement. C'est comme un nouveau départ. Nous pouvons être laissés le passé. Nous devons, avec le pardon, nous devons plus porter le passé sur nos épaules ou dans notre cœur. Avec la pratique du pardon, c'est-à-dire lorsque nous pardonnons une autre personne ou nous-mêmes pour tout le mal ou la souffrance qui ont été créés, nos cœurs, notre mental deviennent plus légères. Le pardon a le potentiel de guérir notre cœur, notre mental, le potentiel de guérir une plaie ouverte. La pratique du pardon, on peut la faire d'une façon formelle, et pour ça, on peut distinguer trois niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faut pardonner toute la souffrance, toutes les irritations que nous avons créées à d'autres êtres, à des autres personnes. Et puis le deuxième niveau, c'est de pardonner toute la souffrance que nous avons créée à nous-mêmes. Et puis le troisième niveau, et il nous faut pardonner à tous les êtres pour les souffrances qu'ils ont été créés à nous. Et on peut pratiquer le pardon aussi en récitant quelques phrases pour nous rendre compte que nous pardonnons soit à nous-mêmes, soit aux autres. Par exemple, nous pouvons dire par des façons différentes, j'ai fait du mal et causé des souffrances à des autres personnes, à des autres êtres. Et je me pardonne. C'est-à-dire, je suis conscient que j'ai causé la souffrance, disons, à une autre personne. Et donc, je me pardonne pour cette activité. Donc, je ne dis pas, je ne fais pas de reproches à moi. J'aurais pas dû faire ça. Et comment est-ce que je peux faire? Et je suis vraiment une personne. Je me respecte plus parce que j'ai fait ça. Donc, toutes ces pensées, on peut les laisser avec le pardon. Je me pardonne pour avoir dit ça, pour avoir fait ça. Et puis, au deuxième niveau, quand nous avons causé du mal ou de la souffrance à nous-mêmes, nous pouvons dire par des façons différentes, j'ai fait du mal et causé des souffrances à moi. Je me pardonne. Je me pardonne pour toutes ces activités ou pour toutes les pensées ou les émotions qui m'ont causé la souffrance. Et puis, au troisième niveau, on peut dire par des façons différentes, des autres êtres m'ont fait du mal et causé de la souffrance. je leur pardonne. Donc, toutes les activités, toutes les paroles des autres personnes, des autres êtres qui m'ont fait du mal, qui m'ont causé de souffrir, donc je leur pardonne pour ces activités. Et comme avec la pratique du metta, le pardon ne signifie pas que nous approuvons un acte malsain ou illégal qui a été effectué. C'est pas que nous disons, par exemple, comme Eva Kaur, que toutes ces activités du régime allemand à ce temps-là, c'était justifié, ou c'était des bonnes actions. Ça ne signifie pas. Mais comme elle a dit, pardonner, ça, c'est un acte d'auto-guérisation. C'est-à-dire ne plus porter ces pensées, des ressentiments ou de la colère ou de la haine dans notre cœur. Donc on peut lâcher prise de ça. Le pardon, il s'agit plutôt d'une manière de décharger le cœur, la chaleur brûlante qui accompagne les pensées de la haine, de la colère. Hier, j'ai dit que surtout toute forme de dose, hein, la colère, la haine, sont comme un feu qui brûle dans notre cœur, dans notre mental. Et la pratique du pardon est un autre moyen de décharger le cœur de cet feu. Toutes les pensées de ressentiment, des pensées négatives contre des autres personnes peuvent aussi être comparées avec du poison pour le cœur. C'est comme ces pensées de colère et de ressentiment sont comparées à avaler du poison nous-mêmes avec l'attente que notre ennemi va mourir. Et il est bien évident que ces pensées de ressentiment, de colère, de haine sont malsains et pas du tout bénéfique à tous, pas bénéfique à nous-mêmes, pas bénéfique aux autres. Et en plus, le ressentiment, la colère sont des émotions qui ont un effet dévastateur sur notre faculté de penser. Quand nous sommes piégés dans les pensées de ressentiment, de colère, nous voyons tous sous la lumière de ce ressentiment. Et donc, c'est très dangereux quand nous faisons des décisions. Et ces pensées de ressentiment n'ont pas seulement un effet dévastateur sur notre faculté de penser, mais ils ont aussi un effet négatif sur notre corps. Quand ces pensées de ressentiment ou la haine, la colère sont très fortes, Aussi, notre corps devient agité ou le cœur devient restreint ou la poitrine devient serrée. Ou aussi, la pression artérielle peut augmenter. Les pensées de ressentiment et de douceur ne sont pas bénéfiques, et aussi les effets secondaires sur notre faculté de penser et les effets sur notre corps ne sont plus bénéfiques. Un autre point, c'est quand on pense que moi, je suis la victime d'une action d'une autre personne. Si on pense comme ça, on regarde la situation d'une vue erronée. Et naturellement, cette vue erronée passe sur notre non-savoir, sur notre ignorance, de ne pas voir les choses d'une façon juste. Si nous serions présents, si nous serions capables d'être attentifs tout le temps et être conscients de ce qui se passe de notre corps, de notre mental, si nous serions capables d'être conscients de tout ce qui entre notre mental par les yeux, par les oreilles, le nez, la tongue, le corps, donc tous les objets que nous percevons avec les yeux, les oreilles, etc. Donc nous serions capables que c'est seulement notre réaction malsaine, notre réaction maladroite qui cause la souffrance. La cause de notre souffrance ne se trouve jamais, jamais en dehors de nous. C'est seulement notre ignorance qui crée toutes les formes de souffrance dans notre vie, dans notre cœur. Si nous comprenons que notre souffrance y inclut sont les pensées de ressentiment, la haine, la colère, etc. Donc, si nous, avec cette réalisation, il serait assez facile de pardonner et d'abandonner toutes les pensées de ressentiment, de colère, toutes les pensées de l'aversion ou de la haine. Parce que le fait, par exemple, qu'une personne nous a causé de la souffrance, ce fait, on ne peut plus changer. C'est une action qui est passée, qui a déjà été effectuée. Mais la souffrance, ça commence avec notre réaction. Quand nous pensons, moi je suis la victime de cette activité de l'autre personne, par exemple. Ou bien aussi, moi je suis la victime de mon mental qui a causé que j'ai frappé une autre personne et causé du mal comme ça. Ou bien, quand j'ai causé la souffrance à moi-même. Donc, piégé dans cette vue erronée, c'est là que la réaction, qu'il y a une réaction, et si c'est passé sur une vue erronée, donc la réaction serait une pensée, une émotion négative qui nous nuit, qui nous cause la souffrance. Nous pouvons bien comprendre, par exemple, quand une personne dit des paroles qui nous causent la souffrance, nous pouvons bien comprendre que ces paroles, ce sont des paroles de l'autre personne. Et l'autre personne était peut-être enragée ou elle était frustrée d'une raison ou d'une autre. Et c'est seulement la vue de l'autre personne qui cause ces paroles. Et ça n'a rien à faire avec moi. La personne seulement jette ses paroles à moi. Mais c'est vraiment, disons, le problème de l'autre personne. Pendant toutes les années, quand j'étais nonne, 21 ans, j'ai découvert une belle pratique que les moines, que les nonnes font quand ils quittent les monastères. Donc la pratique, c'est, disons, quand une nonne sort le monastère, la nonne va chez l'abbesse pour rendre hommage. Et avant de rendre hommage, la nonne demande pardon pour tout le mal ou pour toute la souffrance qu'elle a créée par ses actions du corps, de la parole ou de la pensée. Et puis, l'abbesse répond que tout a été pardonné et en retour aussi demande le pardon pour toutes ses actions du corps, de la parole et des pensées. Et puis la nonne aussi dit j'offre le pardon. Et de cette façon, les deux parties peuvent se séparer avec des cœurs purs et libres de ressentiments, libre des pensées négatives. Et quand j'ai découvert cette pratique, j'ai vraiment réalisé l'importance d'offrir le pardon tout le temps. Et c'est une pratique qui nous accompagne dans la vie. Ce n'est pas qu'une fois qu'on a offert le pardon à soi-même, aux autres, que c'est fini. Parce qu'il y a de nouveau des actions qui nous causent la souffrance et nous réalisons peut-être qu'il y a des pensées, du ressentiment envers nous-mêmes, envers les autres. Et donc, il faut pardonner à nouveau. Mais avec cette pratique, on peut vraiment laisser lâcher le passé et ne plus porter ses pensées dans notre cœur. C'est vraiment comme un poids lourd que nous portons avec nous. Et souvent, nous ne sommes pas conscients que nous actuellement portons ces poids. Ces pensées de ressentiment, comme j'ai dit, nous les portons dans notre cœur, parfois pendant des jours, parfois pendant des semaines, parfois pendant des années. Et c'est vraiment un poids lourd sur notre cœur. C'est comme un bagage inutile qui occupe aussi beaucoup d'espace dans notre cœur. Pour démontrer l'excédent du bagage que les personnes progressent, portent avec eux, ils reçoivent un sac à dos, disons de 10 kg ou de 15 kg, et après, ils doivent marcher pendant 2 ou 3 heures avec ce sac à dos de 10 kg ou de 15 kg. S'il nous faut porter un sac à dos de 15 kg, c'est assez lourd et ça nous fatigue très rapidement. Et après 2 heures ou 3 heures de marche, quand nous pouvons déposer le sac, c'est un énorme soulagement que nous éprouvons. Et comme déposer un sac de 15 kg, c'est déposer les pensées de ressentiment avec la pratique du pardon. Le cœur devient plus léger. C'est un grand soulagement. Munindra est un homme indien. Il avait pratiqué la méditation en Birmanie et puis il est rentré en Inde et a enseigné la méditation vipassana, la méditation metta. Et lui, il était vraiment une personne qui avait incorporé le Dhamma dans tous les aspects de la vie. Et lui aussi, il a recommandé le pardon pour soi-même et pour les autres. Car, comme il avait dit, le pardon rend l'esprit, le cœur souple. Et quand il avait pratiqué la méditation metta, avant de commencer la méditation metta, il avait l'habitude de dire « Si je fais quelque tort envers mes parents, mon professeur, mes aînés, à qui que ce soit dans le passé, par une pensée, par une action du corps, par une parole, consciemment ou inconsciemment, puis-je être pardonné ?» Si quelqu'un a fait du mal à moi, s'ils ont cultivé du ressentiment, une plainte ou une accusation par une pensée, par une action, par une parole, je lui pardonne tout. C'est une autre façon d'exprimer le pardon. Et le pardon, c'est très proche de la méditation metta ou de l'esprit de metta. Si on veut cultiver des pensées de bonheur et de bien-être pour soi-même, pour les autres êtres, ça marche seulement si nous pouvons pardonner. Parce que si nous ne pouvons pas pardonner, si nous sommes attachés à nos pensées de ressentiment, ça empêche de cultiver le metta, la bonté du cœur. Donc c'est très utile de pratiquer le pardon, pas seulement pour la pratique du pardon, mais aussi comme une base pour la pratique du métta. Ou on pourrait dire que le pardon, c'est un aspect de la pratique du métta. Comme tous les états bénéfiques, comme toutes les qualités bénéfiques, comme metta, comme sati, comme la sagesse, comme virya, effort, la confiance, etc. C'est quelque chose qu'il faut entraîner, quelque chose qu'il faut pratiquer, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et donc maintenant, nous voulons cultiver cette pratique du pardon. Mais avant de commencer ça, nous pouvons nous lever pour une minute pour bouger le corps, pour allonger vos jambes.